Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être encore fidèle à Métropolez-vous. Salutations spéciales aux nouveaux auditeurs de cette émission. Nous le savons tous, hélas, la terrible maladie qu'est le cancer n'épargne aucune famille et concerne tout un chacun de près ou de loin. L'impression que le mal gagne du terrain et touche de plus en plus de personnes est partagée par beaucoup d'entre nous, à tort ou à raison. Pourtant, la recherche avance et invente, explore de nouveaux traitements, certains ayant déjà des résultats très probants. La métropole toulousaine est particulièrement en pointe dans ce domaine grâce à ses laboratoires, ses chercheurs et son oncopole. Justement, connaît-on assez la réputation, la qualité du personnel et des soins de cet établissement? Certainement pas, de même qu'on ne sait pas combien la recherche et les traitements innovants que l'on y met au point sont performants et porteurs de grands espoirs, entre autres grâce à l'action de la Fondation Toulouse Cancer Santé. Ce numéro de Métropolez-vous a pour but de vous présenter et de mieux vous faire connaître les services, les projets et les actions menées par cet établissement et cette structure. Il est donc tout naturellement consacré à l'Oncopole et à la Fondation Toulouse Cancer Santé. Pour aborder ce sujet très important et nous faire découvrir l'Oncopole et la Fondation Toulouse Cancer Santé, nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui François Malric, éminent spécialiste en cancérologie, professeur émérite à l'université Paul Sabatier et directeur général de la Fondation Toulouse Cancer Santé. Alors, je sais que vous n'aimez pas parler de vous. Je vais tout de même vous demander de nous expliquer ce qui vous a amené à vous spécialiser en cancérologie, puis à vous investir dans l'Oncopole de Toulouse et à prendre en charge la direction générale de la Fondation Toulouse Cancer Santé, sans trop rentrer dans le détail.
Bonjour. J'ai débuté ma carrière il y a déjà un grand nombre d'années et j'ai démarré en étant un chercheur au CNRS, chercheur qu'on peut appeler fondamentaliste, c'est-à-dire qui s'occupe des mécanismes qui gouvernent le vivant. J'ai eu la grande chance d'être dans la première équipe qui a développé la biologie moléculaire et la génétique moléculaire à Toulouse, dans un centre du CNRS, et donc ça a été une expérience assez extraordinaire. Ensuite, après un séjour aux États-Unis et au Canada, j'ai réintégré un centre du CNRS à Toulouse où je me suis intéressé de plus en plus vers le vivant plus intégré que les molécules, c'est-à-dire sur des cultures cellulaires. Et disons que dans les années 80, le matériel le plus facile à avoir était des cellules tumorales, des cellules cancéreuses, qui avaient la faculté de pousser facilement, qu'on pouvait cultiver très facilement, et c'était le matériel de base. Donc ça a été mon premier contact avec la cellule vivante, et non plus seulement avec les molécules. Et dans un second temps, dans certains moments, peut-être dû à l'âge, je me suis intéressé de plus en plus au système intégré, donc non plus la cellule cancéreuse dans sa boîte, mais carrément aux tumeurs elles-mêmes. Et donc c'est à partir de là que très rapidement, à partir des années 90, j'ai participé à des travaux sur des tumeurs et je me suis rapproché du monde médical.
Merci beaucoup François Malric de nous avoir dévoilé ces aspects de votre parcours qui expliquent pourquoi vous êtes aujourd'hui un des piliers de l'Oncopole et donc le directeur général de la Fondation Toulouse Cancer Santé. Nous allons parler plus en détail avec vous dans quelques minutes de tout ça. Pour l'instant, c'est l'actualité métropolitaine qui va nous intéresser grâce au flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Métropolez-vous, l'actu. C'est avec une nouvelle importante que nous ouvrons ce flash. Le projet de ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse fait bien partie de la loi d'orientation des mobilités.
Oui, Eric, ce plan a été présenté par la ministre des Transports et donne la priorité à l'aménagement des sorties de Bordeaux et Toulouse, travaux lancés dans le quinquennat d'ici 2022, puis au tronçon Agen-Toulouse. Mais il ne retient pas le plan de financement par des ressources dédiées présentées par les collectivités locales. Dans un communiqué commun, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, Jean-Luc Moudinc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, et Georges Méric, président du département Haute-Garonne, le regrette. La société de financement et les outils associés qu'ils ont proposés n'ont pas été retenus dans ce projet de loi en l'état. Sans nouvelle source de financement, la LGV Bordeaux-Toulouse pourrait se voir repoussée à 2037 alors qu'elle est promise tout gouvernement confondu depuis 1991. Carole Delga, Jean-Luc Moudinc et Georges Méric se disent déterminés à se faire entendre avant la présentation du texte au Parlement. Ce sera en février 2019.
Et une autre bonne nouvelle qui va flatter l'ego des citoyens métropolitains, Toulouse Métropole sur le podium des métropoles les plus attractives.
Oui, elle est troisième de ce classement. Les plateformes Région Job et Paris Job ont interrogé pour la première fois les actifs des plus grandes métropoles françaises sur leur perception de l'attractivité de leur lieu de vie. Au classement général des 13 grandes métropoles, Lyon se hisse en tête. Toulouse est donc à la troisième place, juste derrière Nantes et devant Rennes. La métropole toulousaine arrive à la première place sur la question du coût de la vie devant Lyon et Strasbourg. Elle obtient aussi une honorable cinquième place sur les questions de la qualité de vie générale, du marché du travail et de la qualité des infrastructures de la métropole. Autre question posée, recommanderiez-vous votre ville à une personne cherchant à changer de région ? Les Toulousains sont plutôt enthousiastes, avec 84,6% d'entre eux qui la recommanderaient. Comparativement, les Lyonnais répondent favorablement à 90,9%, quand les Parisiens jugent assez sévèrement leur ville, avec à peine plus de 3 habitants sur 5 prêts à se porter caution.
Il faut noter que les habitants se sont également exprimés dans le détail sur les points forts et points faibles de leur métropole.
Et si la qualité de l'environnement, le dynamisme de l'emploi et la qualité des écoles et de l'enseignement sont particulièrement appréciés et salués par les habitants, la qualité des transports et de la circulation, le coût et la qualité du logement et la sécurité des biens et personnes sont des éléments plus critiqués. Ils sont reconnus comme les 3 principaux inconvénients de la métropole.
Une information plus inquiétante maintenant, selon une nouvelle étude scientifique, 22% des actifs montrent des signes de détresse psychique.
Oui, les employeurs et institutions se mobilisent pour lutter contre le mal-être au travail, notamment sur les problèmes d'addiction qui ont des répercussions dans le monde du travail. Ponctuelle ou chronique, l'addiction a un impact sur le travail avec risque sur la sécurité, des difficultés relationnelles, d'altération de la qualité du travail ou encore du manque d'assiduité. L'employeur a une obligation de sécurité et de protection de la santé. Toulouse Métropole, en 2015, s'est dotée d'une charte qui vaut règlement intérieur et qui s'applique à toutes et à tous. La prévention doit aborder les effets de comorbidité ou troubles associés, comme avec par exemple le tabac. C'est la dépendance la plus létale. Le mois de novembre est d'ailleurs consacré à cette lutte contre le tabagisme. Pour toute question ou besoin d'action, Toulouse Métropole dispose d'une direction des ressources humaines, pôle santé et qualité de vie au travail. Vous pouvez lui adresser vos questions.
La dernière information de ce flash, c'est Toulouse Métropole qui se mobilise pour soutenir les associations. À titre d'exemple, elle a octroyé cette année 90 000 euros pour soutenir les initiatives associatives dans les quartiers prioritaires du contrat de ville.
Oui, une aide bienvenue pour ces associations qui se mobilisent pour trouver des projets ou solutions alternatives. C'est aussi le cas de Radio Présence qui a besoin de vos dons pour continuer à vous fournir des émissions de qualité avec des temps de parole plus longs, des sujets de fond qui ne sont pas toujours les priorités des rédactions.
Et pour nous soutenir et pour suivre cette aventure avec nous, un seul numéro, le 05 62 48 63 00. Je répète, 05 62 48 63 00. Et vous pouvez également faire un don en ligne sur notre site internet www.radioprésence.com. François Malric, peut-être une réaction à une information de ce flash, et je pensais notamment à celle qui concerne l'attractivité de la métropole toulousaine. Je suppose que c'est un atout pour attirer les chercheurs que vous souhaitez voir intégrer les équipes de recherche de l'Oncopole.
Tout à fait, c'est une excellente nouvelle, enfin nous le savions, nous en doutions déjà, mais c'est une excellente nouvelle parce que nous sommes amenés à faire venir des chercheurs, soit français qui viennent d'autres villes françaises, soit de l'étranger, soit faire revenir des Français à l'étranger, et c'est le cas cette année sur un des projets que nous finançons. Donc cette attractivité, et notamment tout le côté enseignement, ce qui a été dit sur les écoles et autres, c'est très important pour des jeunes chercheurs qui reviennent avec des enfants. Donc ça, c'est une excellente nouvelle et nous pourrons le mettre en avant. Un autre point qui m'a étonné, c'est que dans ce que les Toulousains trouvent de bien dans Toulouse, il me manque à mon avis un point essentiel, c'est le côté santé, puisque dans l'enquête du point qui a lieu chaque année, depuis déjà plusieurs années, le CHU de Toulouse se trouve au top niveau, plus 2 ou 3 cliniques privées de Toulouse sont au top niveau, et souvent classées numéro 1. Et donc c'est quand même un atout très important, le côté santé à Toulouse, quand même devrait faire partie de l'attractivité. Ce que je crains, et notamment c'est pour ça que je suis ravi d'être ici, dans le cas de l'Oncopole, je me rends compte, en faisant beaucoup de rencontres, en allant dans plusieurs associations, dans des clubs, dans des réunions diverses et variées, je m'aperçois que les Toulousains ne savent pas ce qu'est l'Oncopole, ce qu'est l'Oncopole et la qualité de ce qui se passe à l'Oncopole.
Vous venez d'en parler, ça revient un peu à notre radio don. Ici, on a souvent des émissions qui sont de longue durée, on donne la parole longuement à nos invités pour aborder des sujets pas souvent abordés dans les médias. Est-ce qu'on vous invite souvent à parler de l'Oncopole, à parler de la Fondation Toulouse Cancer Santé ?
Dans les médias, certainement pas. Je crois que vous êtes peut-être pas le premier. J'ai déjà eu une émission de radio où nous avons été invités il y a un mois. Donc à part cela, non, on n'a jamais de contact avec les médias. Les médias quand même, chaque fois qu'on fait une conférence de presse pour présenter nos appels à projets, les médias répondent, en général viennent. Enfin, les médias, les journalistes. Mais voilà, ça se résume à cela et un communiqué de presse ou des articles. Donc, nous ne sommes pas maltraités par la presse locale, mais disons que par radio, télévision.
On vous tend rarement le micro, en tout cas.
Tout à fait.
Bon, c'est ce qu'on essaye de faire à Radio Présence, et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que si vous voulez soutenir cette radio, eh bien, vous pouvez appeler au 05 62 48 63 00 pour faire vos promesses de dons. Merci, professeur Amalry, de nous avoir donné toutes ces précisions. Ça nous ramène au sujet principal de cette émission que nous avons donc consacrée à l'Oncopole et à la Fondation Toulouse Cancer Santé.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous en compagnie de notre invité François Malric, spécialiste en cancérologie, professeur émérite à l'Université Paul Sabatier et directeur général de la Fondation Toulouse Cancer Santé. La décision de créer et de construire l'Oncopole à son emplacement actuel a été prise il y a plus de 15 ans, dans des circonstances tragiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'étaient ces circonstances? Quelles furent les étapes de la création de l'Oncopole et ce qu'il y a aujourd'hui?
Donc 2001, le drame d'AZF. Tout ce secteur de Toulouse a été dévasté. Et partant de là, s'est posé le problème, que peut-on faire sur ce site? Il y a eu un premier projet, si vous vous rappelez 2001, c'était l'essor des biotechnologies. Je me rappelle le professeur Allègre qui a porté un projet très important sur l'essor des biotechnologies. Et donc, la première idée, c'était la cité des biotechnologies. Et puis, est sorti le plan cancer dont j'ai parlé tout à l'heure. Et partant de là, l'idée de Philippe d'Ouste-Blasio, qui était ministre de la Santé, avec qui j'ai discuté à cette époque-là, moi j'étais à l'Institut National du Cancer, ça a été de dire, mais pourquoi on ne regrouperait pas sur ce site l'ensemble du cancer Toulouse? Cancer Toulouse, qu'est-ce qu'il y a dans cancer Toulouse? Il y a des cliniques privées, mais le public, il y a le CHU, et il y a une structure qui s'appelle l'Institut Claudius-Rigaud, qui sont un des 23 centres anticancéreux en France, et qui est de droit privé. Donc le challenge a été de mettre sur un même site l'ICR, l'Institut Claudius-Rigaud de droit privé, avec des services du CHU. Je dis des services et pas tous les services, parce qu'il aurait fallu que le budget soit un peu plus élevé. Donc à l'heure actuelle, tout le cancer n'est pas public, n'est pas sur le site. Par exemple, la pneumologie et le digestif est à Rangueil, et tout ce qui est cerveau est à Purpan. Tout le reste est sur le site de l'Oncopole. Donc ça a été un pari qui paraissait un peu fou, parce que faire cohabiter une structure de droit privé avec une structure de droit public, c'est un peu compliqué. Ben, le miracle est réalisé. Ça a à peu près mis 1 à 2 ans pour se mettre en place et que tout soit calé. Et 2 ans après, le système a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, c'est un succès remarquable, puisque je pense qu'on va y revenir dessus. Bien c'est sûr. Certainement un des meilleurs centres français en oncologie.
Alors, pour que les gens comprennent bien, sur le site actuel de l'Oncopole, il y a 2 grandes composantes, la partie soins et la partie recherche.
Tout à fait. Alors, la partie soins, ben, je vais vous la décrire, elle est très rapide, c'est 300 lits à peu près, 306 lits, c'est 250 médecins, c'est 2000 soignants, enfin médecins compris. Donc, vous voyez, ça fait 2000 personnes qui travaillent sur le site côté soins. Et donc, l'originalité, ça a été de construire un centre de recherche directement lié par une passerelle qui est au premier étage, qui relie la recherche aux soins. Et ça, c'est un atout essentiel et j'y reviendrai tout à l'heure. Ce centre de recherche, c'est un centre de recherche de l'INSERM, l'Institut National de Recherche sur la Santé, et qui, à l'heure actuelle, a 440 chercheurs. Ces chercheurs sont venus d'où? Ben, ils sont venus d'abord de l'ICR, il y avait quelques chercheurs à l'ICR, des chercheurs du CHU et beaucoup de chercheurs qui ont rejoint ce centre. Et on est passé pratiquement d'une centaine au départ à 420 aujourd'hui. Et je crois que l'année prochaine, le centre est plein. Il n'y a plus de place. Pratiquement, il n'y aura plus de place. Donc, c'est un succès remarquable. pourquoi l'opération est un succès? C'est justement parce que les deux composantes recherche et clinique sont au voisinage, que les cliniciens font partie, pour la plupart, des équipes de recherche du laboratoire qui s'appelle le CRCT, Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse, et que donc les chercheurs ont accès aux prélèvements humains en temps réel, c'est-à-dire on fait une prise de sang. Il y a une partie qui va bien sûr pour les analyses médicales qui reste côté que soins, mais une partie part à la recherche. Et on peut faire un séquençage d'ADN dans la foulée immédiatement, si c'est nécessaire. D'autre part, des prélèvements de tumeurs partent immédiatement vers les anapathes, anatomopathologie, qui vont vous dire si le prélèvement est cancéreux ou n'est pas cancéreux, mais immédiatement part aussi côté recherche. Donc cette rapidité, cette fusion entre recherche et clinique est la clé du succès. Et on fait que d'un centre moyen, on devait être en 5 ou 6e position en France quand l'opération a démarré. On est aujourd'hui numéro 1, très près de Villejuif, à égalité avec Villejuif.
Combien de personnes sont soignées, accueillies chaque année à l'Oncopole? Est-ce que c'est un chiffre d'ailleurs qui est en évolution, plutôt en augmentation, ou est-ce que c'est stable?
Alors je peux vous dire des chiffres que j'ai depuis très peu de temps, puisque c'est le rapport d'activité de 2017 vient de sortir, donc c'est les chiffres 2017, et 2018 sera plutôt en augmentation. C'est des chiffres incroyables, c'est 100 000 consultations par an, et déjà depuis les 3 dernières années, ça a été créé il y a 5 ans. Problème d'engorgement. Il y a vraiment, là, totalement. On est arrivé au maximum, ils ne peuvent plus recevoir plus que ce qu'ils reçoivent.
Donc il va falloir construire une extension, je suppose.
On peut en parler tout à l'heure.
Il faudrait.
Si vous voulez. En termes d'hospitalisation de nouveaux cas, 10 000 par an, on a dépassé déjà le 50 000e nouveau patient soigné sur le site. Ça veut dire qu'en termes d'occupation de lit, c'est beaucoup plus, puisqu'il y a malheureusement des personnes qui reviennent plusieurs fois, donc qui sont amenées à revenir plusieurs fois. Donc voilà les chiffres. Ce sont des chiffres qui sont extrêmement élevés. Très importants.
Impressionnant.
Et donc ça, malheureusement, c'est peu connu, mais je pense que les Toulousains ne le savent pas du tout.
Certainement pas. Alors, ces chiffres, justement, je parlais tout à l'heure de cette impression qu'on peut tous avoir, qu'il y a une recrudescence des cas de cancer en France. Est-ce que c'est une impression fausse, ou est-ce qu'il y a une réalité derrière cette impression?
C'est une question très controversée et moi je vais vous répondre en termes purement scientifiques. Je vous ai dit au départ, je n'étais pas médecin,
bien sûr.
Suis scientifique et bon. Si l'on tient compte de tous les paramètres, c'est-à-dire le nombre de cancers que l'on trouve, mais aussi le vieillissement de la population, si on se ramène à une moyenne d'âge, mettons, je crois qu'aujourd'hui pour les hommes c'est 75 ans ou 76 ans l'âge moyen de vie. Si on se ramène à il y a 10 ans, où ça devait être 70 ans ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, on s'aperçoit que l'augmentation du nombre de cancers est due à l'augmentation du vieillissement de la population. Pourquoi? Parce que tout le monde, chacun d'entre nous, on développe des cancers. En permanence, c'est une cellule qui va mal, on se met trop au soleil, on a des cellules de mélanome, mais le mélanome, heureusement, votre système immunitaire réagit
et peut lutter
immédiatement. Et heureusement, donc, nous avons un système immunitaire qui reconnaît tout ce qui ne va pas et qui détruit les cellules qui ne vont pas. Et puis, à un moment donné, ces cellules échappent au système immunitaire. En réalité, c'était les grandes découvertes actuelles, où, depuis les 2 ou 3 ans, où on s'est aperçu comment la tumeur mettait sous sourdine, enfin n'anéantissait pas le système immunitaire, mais l'empêchait de reconnaître la tumeur. Donc c'est la tumeur qui envoie des signaux pour que le système immunitaire ne voit plus la tumeur. Depuis qu'on a découvert sur le plan moléculaire comment ça marchait, on a des nouvelles thérapies justement pour stimuler ce système immunitaire qui puisse remarcher et redégrader les tumeurs. Donc ça, c'est des grandes avancées qui ont été faites par la recherche il y a très peu de temps et qui sont directement transférées dans le domaine médical. Donc, avec ce que je vous ai dit, le nombre de cancers augmente parce que la population vieillit. Sinon, globalement, c'est à peu près stable. Mais le facteur qui est en plus pour la détection des cancers est bien supérieur aujourd'hui à ce qu'elle était il y a 20 ans, qu'on en détecte plus. Mais on en détecte plus si on les détecte très tôt, mais on guérit. Et alors, l'autre chiffre que je voudrais vous donner, c'est si on regarde en mortalité. En mortalité, par contre, là, c'est nettement des succès. C'est-à-dire que pour tous les cancers sauf un, la durée de vie, lorsque le cancer est détecté, la durée de vie augmente, s'allonge pour tous les cancers sauf un, qui malheureusement est le cancer du pancréas.
Oui, pour lequel on est toujours malheureusement aujourd'hui un peu
démunis. Oui, parce qu'on ne peut pas les détecter. On arrive, il n'y a aucun signe qui vous montre que vous
quand
avez
le cancer.
Quand on le
détecte, c'est
trop
déjà
tard.
Trop tard.
Hein.
Le processus est enclenché et on ne peut pas faire grand-chose.
Voilà.
Alors ça m'amène justement à parler de la recherche maintenant. Vous avez parlé de prévention, de détection, pardon. Évidemment, lorsqu'on parle recherche, on pense au traitement, aux thérapies, peut-être à la prévention. Quels sont les domaines de recherche privilégiés aujourd'hui? Est-ce que c'est surtout les traitements, mais est-ce que c'est aussi la détection?
Disons qu'à l'Oncopole, au CRCT, donc et à l'Oncopole, l'Oncopole d'ailleurs qui s'appelle IUCTO, et je crois que c'est important pour les Toulousains parce qu'ils voient un sigle, ils ne savent pas ce que c'est Institut Universitaire du Cancer Toulouse-Oncopole, d'où le haut. Et pour bien démarquer ce qui se passe sur ce site par rapport à ce qui se passait à Purpan ou à Rangueil, qui font tous partie de l'IUCT. Si je regarde ce qui se passe donc sur le site de l'Oncopole, il y a deux choses essentielles qui se passent. C'est d'une part, mise au point de marqueurs, donc détection, pouvoir détecter le plus rapidement possible le cancer. Et deuxièmement, la mécanistique, c'est-à-dire là je reviens à mes amours de biologie moléculaire, c'est savoir comment fonctionne, je vous l'ai décrit pour tout le problème du système immunitaire qui devient muet. Donc c'est de savoir comment ça marche et de trouver des outils pour réveiller le système immunitaire. Donc ça, il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle. Et le gros avantage, c'est que c'est transféré très rapidement au bénéfice du patient.
Alors, on en arrive, lorsqu'on parle de recherche, au financement de la recherche, parce que je crois pas me tromper en disant que le nerf de la guerre, c'est quand même les moyens que l'on investit dans la recherche, et pour ça, il faut de l'argent. C'est là que la Fondation Toulouse Cancer Santé joue son rôle. Son rôle principal, c'est bien de récolter des fonds pour les octroyer aux chercheurs, aux projets de recherche.
Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la recherche en France, mais à peu près partout dans le monde? C'est-à-dire que les organismes d'État paient les salaires, paient l'infrastructure, c'est l'électricité, le gaz. Certains donnent un peu d'argent pour la recherche. Le CRCT, mettons. Le CRCT a un budget de 20 millions par an. Là-dedans, c'est plus de 80% les salaires. Ensuite, donc, il reste, vous voyez, dans les 5 ou 6 millions pour faire de la recherche. L'INSERM doit donner, sur 6 millions, 700 000 euros, même pas 10%.
Il faut encore trouver 5 millions.
Exactement. Ouais. Donc, les chercheurs répondent à des appels à projets qui viennent de l'ANR, qui est un organisme national, de l'Europe, essentiellement, et éventuellement essaient de relier des relations avec des industriels, hein, sur des projets plus finalisés. Donc, il faut trouver cet argent. Donc, le chercheur fait une course à la recherche d'argent, alors qu'il devrait faire uniquement faire de la recherche.
Oui,
en fait, c'est un état de fait, c'est pas qu'en France, c'est mondial, pratiquement mondial. Sauf peut-être en Chine, où c'est un peu différent. Mais vous me direz, mais la Fondation donne combien et qu'est-ce que ça représente? La Fondation donne à peu près 700 000 euros par an. 700 000 euros, là, vous voyez aussi, mais c'est l'équivalent de ce que donne l'INSERM. Mais le gros avantage de la Fondation, c'est qu'elle est maître de l'appel à projet. Premier point. Donc, je vais vous décrire comment ça se réalise. Pour l'année prochaine, on a décidé du thème de l'appel à projet. Ce sera métabolisme et cancer, qui est quelque chose de très à la mode, en plein boom, partout. On pourrait parler alimentation et cancer, mais ça en fera partie, c'est métabolisme et cancer. Donc, le thème de recherche est décidé par l'ensemble des chercheurs du site toulousain. On se réunit, on a une vingtaine, et on dit que l'année prochaine, quel est le titre de l'appel à projet? Il est en fonction des besoins de la recherche à Toulouse, il est en fonction, donc, je dirais pas de la mode, mais des grands axes de recherche, comment avance la recherche. Donc, c'est décidé. Le 4 février cette année, nous allons faire une journée scientifique où tous les scientifiques toulousains intéressés par ce domaine vont être regroupés. On aura 4 conférenciers étrangers top niveau dans le domaine. Et donc, tous les Toulousains qui veulent avoir de l'argent de la Fondation vont soit venir faire ce qui s'appelle un short talk, c'est-à-dire une communication de 5 minutes, soit auront des posters, hein, c'est un panneau avec la présentation de ce qui se fait. Partant de là, au cours de cette journée, les gens vont se rencontrer. Il y aura des cliniciens, il y aura des chercheurs biologistes, il y aura des biologistes moléculaires, il y aura des sciences dures, des gens du LAS, pour les microtechnologies, nanotechnologies. Donc tous ces gens-là se regroupent, seront présents. Et partant de là, nous on va écouter, et puis la Fondation va écrire l'appel à projet. Ça va se faire d'ici fin mars. L'appel à projet sort. Les chercheurs se regroupent par 2 ou par 3. En général, on finance plutôt des projets collaboratifs entre 2 équipes. Ils vont se regrouper. Pour déposer des projets, en général, on a entre 12 et 15 projets. Donc, ça sera fin avril. On envoie ces projets aux membres de notre conseil scientifique international, qui est fait d'étrangers et de Français, aucun Toulousain dans ce comité, qui va se réunir à Toulouse vers le 15 juin, auditionner les 6 ou 7 projets qui semblent être les plus prometteurs. Donc, c'est eux qui vont choisir les projets qu'ils veulent auditionner. Ils vont nous donner un classement. Et puis, moi, je présente ce classement à mon conseil d'administration qui me dit, en fonction des moyens financiers que l'on a, on arrête au 4e, au 3e ou au 5e. Je peux plaider avec passion le 5e s'il est excellent.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc, globalement, voilà comment ça fonctionne. Et le gros avantage, c'est que les chercheurs ont écrit leur projet en avril. Début septembre, ils ont l'argent en caisse. Donc ça, c'est la rapidité, alors que tous les appels à projets au niveau national ou européen, c'est entre un an et un an et demi.
La réactivité, vraiment,
réactivité quelque chose qui est essentiel.
Très essentiel.
Et puis le second point, enfin le troisième point que je voudrais marquer, c'est la transparence. Les projets retenus se trouvent sur un site internet qui est l'Arbre des donateurs. Hein, vous tapez Arbre des donateurs, vous allez le trouver. Vous avez la tête du chercheur. Vous avez un résumé grand public dessous. Vous cliquez, vous avez un résumé plus scientifique.
Et l'enveloppe budgétaire, le budget.
Et l'enveloppe budgétaire. Et vous avez, au fur et à mesure que les publications sortent, elles sont écrites sur le site. Donc voilà, vous avez un suivi du projet de transparence.
Un financement de projet en moyenne, c'est quoi? C'est 100 000 euros, c'est plus, c'est
moins? Écoutez, cette année, on a financé des petits projets à 100 000 euros parce que c'est des projets extrêmement innovants, très risqués. On a mis 100 000 euros. En général, un projet avec deux équipes associées, c'est 200-250 000 euros.
Alors pour finir, la question que doivent se poser tous nos auditeurs, quels sont aujourd'hui les espoirs mis dans la recherche au sens large ou pour des cancers bien spécifiques? Est-ce qu'on peut espérer vaincre définitivement le cancer et si oui, à quelle échéance?
Ben définitivement, je ne pense pas que ça soit encore dans les années à venir, mais disons qu'à 10 ans, si on combine la médecine personnalisée avec toutes les avancées que l'on a aujourd'hui dans le domaine, on peut espérer que 90% des cancers seront vaincus. Ça dit qu'il y aura traitement, enfin, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire.
Alors justement, quelles sont les pistes les plus prometteuses, les traitements les plus prometteurs?
Mais le plus prometteur, c'est ce qui s'appelle une vaccination thérapeutique. Ce n'est pas une vaccination préventive, mais une vaccination thérapeutique où à partir du séquençage du génome, à partir d'un certain nombre de facteurs, on peut faire produire des anticorps qui vont détruire la tumeur.
Et il y a aussi tout ce qui est immunothérapie, c'est la même chose ou c'est
d'autres? Non, il y a deux types d'immunothérapie. Vous avez l'immunothérapie en général, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On réapprend au système immunitaire à reconnaître la tumeur, alors qu'actuellement elle est endormie. Ça, c'est la première. Et puis l'immunothérapie ciblée, qui fonctionne très bien, qui guérit aujourd'hui certains cancers, qui n'étaient pas guéris il y a deux ou trois ans. Où on a réussi à détecter qu'il y avait une protéine à la surface des cellules tumorales, et on fait produire un anticorps qui va reconnaître cette protéine qui détruit la tumeur.
Ça, autant c'est une de pistes très prometteuses et la recherche avance très vite dans ces domaines, notamment à Toulouse. C'est malheureusement pour moi le moment de conclure cette émission. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les recherches menées à l'Oncopole et les actions de la Fondation Toulouse Cancer Santé. J'espère toutefois que nous vous avons donné assez d'informations et d'explications pour bien comprendre le fonctionnement, les activités et surtout tous les enjeux auxquels cet établissement et cet organisme sont confrontés. Nous pouvons raisonnablement fonder de grands espoirs, vous l'avez dit, sur les travaux et les projets entrepris par les chercheurs de l'Oncopole de Toulouse pour développer et mettre au point les thérapies, les traitements qui permettent de soigner les malades du cancer et qui permettront peut-être demain, si ce n'est de vaincre cette maladie, en tout cas de la soigner, de prolonger la vie encore plus. Pour y parvenir, il faut des moyens et donc de l'argent. La Fondation Toulouse Cancer Santé a besoin de votre soutien et de vos dons. Je vous invite donc à consulter son site internet pour vous renseigner, www.toulousecancer.fr. Il y a également un numéro de téléphone pour vous informer, 05 31 15 57 31. Si vous voulez connaître les appels à projets en cours de financement et les projets précédemment financés par la Fondation grâce aux dons, vous pouvez consulter le site www.arbredesdonateurs.fr et puis j'indique le site internet de l'Oncopole pour découvrir tous ces services et les médecins que vous pouvez y consulter, www.oncopole-toulouse.com. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Merci de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.